Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui voit cette année sa claustrophobie naturelle décidément mise à mal, tant il est vrai qu'on fait face à un assaut de films de sous-marins, car après course, que voici que nous arrive le Chant du Loup, nouvelle plongée en eau trouble aux côtés cette fois-ci de la marine française. Oui monsieur, oui madame, une exploration tricolore dont on va causer avec un trio attaché aux valeurs et aux institutions de notre belle contrée. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Bonjour Thomas.
Ils sont très très loin du micro. Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné, épisode 177 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
C'était étrange ce petit temps de latence qu'il y a eu entre le moment où je disais vos noms
c'est
et le moment
où
c'est
le temps de venir, si on réfléchissait.
C'est ça, si tu réfléchis à ce
on émerge.
Ce que tu vas me dire. Tu sors de l'eau, c'est beau tel le périscope.
Le champ dépressurisation.
L'émission n'a pas commencé. Le Chant du Loup, donc, nous embarque à bord d'un sous-marin nucléaire français faisant route au large des côtes syriennes pour récupérer un commando à son bord, comme le veut l'usage. Un officier chargé d'écouter tous les sons captés à l'extérieur de l'engin grâce au sonar. Un officier qu'on appelle l'oreille d'or, incarné ici par François Civil, qui va buter sur un son inconnu et mettre en danger l'équipage alors qu'une frégate iranienne se met par ailleurs en chasse du sous-marin.
J'ai un rythme très lent. Du 4 temps. Ça, c'est forcément un sous-marin.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
Derrière la caméra, c'est Antonin Baudry, dont c'est la première réalisation. On le connaît mieux sous le nom d'Abel Lanzac, pseudonyme utilisé pour signer la BD Quai d'Orsay, le scénario de l'adaptation assez raté qu'en avait fait Bertrand Tavernier. Au casting, outre François Civil, on trouve Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Paul Abir ou encore Reda Kateb. Votre avis sur ce Chant du Loup, les amis. Julien Dupuis.
Lamentable.
C'est lamentable.
Lamentable.
Une nouvelle fois, Julien Dupuis prend la parole.
Ouais.
L'officier le
moi
plus
que j'avais trouvé que l'adaptation n'était pas si ratée que ça d'ailleurs.
Je tiens à dire que c'était moi qui le dis.
Voilà, tu assumes.
J'assume totalement.
J'aimerais être clément avec le film parce que des films comme ça on n'en voit pas beaucoup avec ce budget-là on n'en voit pas beaucoup et ce qui est un grand courage en fait je trouve hein, de production en France est aussi malheureusement doublé d'une certaine inconscience voire d'un peu de bêtise, c'est-à-dire que pour moi le gros problème du Chant du Loup c'est que je pense qu'il y a un sujet. Je pense que surtout il y a une possibilité de trouver dans le mode de fonctionnement français une brèche par laquelle la fiction peut s'engouffrer et de façon, je trouve, hein, plutôt pertinente et intéressante. Mais le problème, c'est que tu donnes pas un film pareil à un cinéaste qui n'a rien fait avant. Ouais. Et ce qu'on pouvait redouter en fait vis-à-vis de ça, se confirme quand tu vois le film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film tu sens qu'il n'est pas porté par une vision. C'est un film qui est très étriqué, qui est très curieux dans sa facture. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des reconstitutions de décors. Il se trouve que j'ai fait une interview assez fouillée avec Benoît Barou, qui est le chef décorateur du film. Ils ont abattu un travail de malade, les mecs. Avec un jusqu'au boutiste étonnant, c'est-à-dire que par exemple tous les affichages sont corrects tout le temps dans le film. C'était une exigence en fait du réalisateur. Donc tu as ça, et à côté de ça, tu as un travail de Buff Compagnie sur les effets visuels. C'est important les effets visuels sur un film comme ça, qui est parfois totalement indigent. Tout est à l'avenant, c'est-à-dire que t'as des choix de casting qui peuvent être relativement judicieux. Et t'as encore ce problème, moi je trouve que sur François Civil, c'est pareil. J'avais déjà eu un peu ce problème moi dans Burnout. Je trouve que c'est pas un gars qui a l'étoffe en fait pour porter un film pareil. Et du coup, j'ai un peu quand même l'impression d'être devant un accident industriel c'est un peu méchant de dire ça, parce que je trouve que le film n'est pas non plus honteux, hein, mais ça reste un tout petit film, alors que ça aurait dû être un grand film ambitieux, français, voilà. Donc, restent les intentions, et reste cette, encore une fois, cette faculté, et j'insiste là-dessus, parce que ça, c'est quand même très rare de réussir à créer de la fiction avec le contexte géopolitique où la France a son, a sa place, et où tu te dis, ah ouais, pourquoi pas ? Ça pourrait fonctionner. Ça, c'est quand même très, très rare, en fait. Et surtout qu'en France, on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça dans les œuvres de fiction, je trouve. Hein. Mais peut-être que mes deux collègues vont me faire mentir là-dessus, quoi. Mais c'est rare, en fait, d'avoir ce type de point de vue et tout. Mais à l'heure où on enregistre, le film n'est pas encore sorti. Moi, je redoute énormément la réception publique.
Oui.
C'est embêtant parce que... Parce qu'un échec comme le Chant du Loup, bah, ça ne fait pas avancer le schmilblick,
oui,
en fait.
Ça peut doucher certains autres projets.
Voilà, exactement. Quoi. Et ça fait assez peur, quoi, là-dessus.
Stéphane ?
Bah, ça, je ne sais pas si ça va être un vrai souci, en fait, parce que je pense que le public français, si tu lui ramènes ce type de sujet avec un casting comme celui-là, ça peut fonctionner. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça le gros souci. Et puis en plus, j'ai l'impression que la façon dont s'est produit ce genre de truc, si on a un Omar Sy qui dit oui, quelque part il se fera, en fait, quel que soit, enfin ce sera pas des budgets monstrueux, ce sera pas des trucs comme ça, mais ça se fera, en fait. Donc voilà, le souci, en fait, il y a un vrai, pour moi, souci aussi de fabrication, c'est-à-dire de effectivement intégrer ce type de récit dans un contexte français, c'est plutôt bien vu. Mais écoute, moi j'avais déjà ce problème-là chez Tony Scott, hein, dans Crimson Tide, tu vois, dans USS Alabama. J'ai énormément de mal à croire à la menace nucléaire aujourd'hui, en fait. Et comme c'est un truc qui te met en avant, ouais. Et c'est quand même la grosse partie c'est toute la fin du film.
Ça t'est quand même très personnel, Stéphane.
C'est très personnel, mais en fait, j'ai toujours trouvé que c'était un moteur, en fait, narratif qui. C'est simple, en fait. Si le film se termine sur cette menace-là. Tu sais qu'il n'y a pas de happy end, il n'y a rien, tu peux pas faire... En fait, en gros, c'est ça passe ou ça casse, c'est soit ça explose, soit ça n'explose pas. Et le truc, c'est qu'en général...
Je comprends pas ta logique, là. Bah, la logique, parce que dans une journée en enfer, si ça explose à New York, ça va être difficile.
Non, mais c'est une explosion spécifique. Là, on parle d'une explosion nucléaire. Mm. Bon, voilà, c'est tout. C'est juste qu'en fait, s'il y a une explosion nucléaire à la fin... En gros,
c'est comme beaucoup de films catastrophes. Si ça pète, ça pète.
Oui, mais tu vois bien où ça en arrive, les films catastrophes. Moi, j'achète plus jamais un Emmerich ou un truc comme ça. Ça marche plus, en fait. T'as 3 milliards de morts, tu les vois pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y a un moment donné, il faut que ça soit incarné. Bon, ça, c'est, encore une fois, c'est peut-être personnel, je le concède. Mais après, il y a des problématiques de fabrication. Autant, par exemple, moi, je suis pas un grand fan de la mise en scène du film, je la trouve assez impersonnelle et tout. Autant, par exemple, la première scène peut fonctionner parce qu'il y a quelques moments de montage, en fait, un peu qui arrive à plus ou moins raconter le truc, quoi. Sauf qu'elle se termine sur un des pires CGI de l'histoire du cinéma français de ces dernières années, quoi. Donc du coup, l'ambition même du film, je trouve, elle est ramoindrie. On se dit, ah ouais, tiens, en fait, on est en train de regarder un film français. C'est un peu, ouais, mais c'est peut-être aussi très personnel, mais c'est un peu, voilà.
Je vois très bien. C'est marrant, tout le monde voit tout de suite de quoi tu parles.
Voilà. Et le souci, c'est que en fait, dans tous ces trucs-là, c'est que bah effectivement, il y a, moi, je trouve, des problèmes de casting. Et c'est pas que François Civil, hein. Kassovitz, par exemple, dans le rôle du super gradé, c'est pas possible. Ouais. Moi, je l'aime bien, Casso. Je trouve que c'est un bon acteur. Mais à un moment donné, il charrie quand même quelque chose derrière lui et ça marche pas. Et en fait, quand ils lui font faire des punchlines du genre ouais, je veux que les poulpes entendent, je veux que vous fassiez tellement de rafus que les poulpes aient l'impression d'être dans un concert d'ACDC, tu fais wow, d'accord, bon, il y a plein de trucs comme ça, yeah. Et plein de problèmes d'écriture, d'écriture spécifique, hein, c'est-à-dire plein de problèmes d'écriture comme ça, plein de problèmes de jeu, des scènes, même vraiment, j'imagine qu'ils ont essayé de jouer avec ça, hein, des scènes embarrassantes. Il y a une scène où il appelle dans son bureau Omar Sy et Reda Kateb, et en fait il est entre les deux et il fait 20 cm de moins. Et tu vois qu'ils sont super emmerdés pour cadrer, quoi. Et le truc, c'est que j'imagine qu'ils jouent avec cette logique-là pour le rendre intimidant, mais ça marche pas du tout, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est pas Joe Pesci, quoi. Oui. Donc le truc, c'est que... Enfin, je dis Joe Pesci, mais c'est pas le petit gars, tu vois, qui en impose, quoi. Et Casso, enfin voilà, je trouve que c'est un vrai problème dans le film, ce genre de truc. Et après, ben... La problématique générale pour moi d'un film de sous-marin, c'est que c'est censé être des films de mise en scène. C'est-à-dire, tu mets en scène, les coursives. Tu mets en scène, et là, il y a rien de tout ça. On reste dans les mêmes décors, dans les mêmes, il y a pas la vie en fait dans les sous-marins en soi, elle n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire, tu vois pas comment les mecs fonctionnent entre eux. On a fait une émission sur course il y a deux trois mois. Bon, par essence, ça y était parce que c'est dans le récit.
Oui.
Là, c'est vraiment, comment dire, tout ce qui a trait à la vie, on va dire, à proprement parler, c'est hyper téléphoné. Il y a un personnage féminin dans le film qui ne sert littéralement à rien, quoi. C'est-à-dire, c'est un love interest. Et le problème de ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle est complètement déconnectée de ce qui se passe. Elle fait une chose qui fout la merde, tu vois, si tu veux. En plus, c'est ça le truc, quoi. Et ça, c'est un truc de vie. Enfin, qui fout la merde, façon de parler, quoi. C'est un tout petit truc de vie pour essayer de faire exister les personnages en dehors de leur vie de tous les jours. Et le reste, en fait, ça y est pas, à part deux plans où Reda Kateb rentre chez lui, où François Civil rentre chez lui, il te rend compte qu'ils ont plus ou moins la même baraque vide, ce genre de choses, quoi. Mais les vies dans les sous-marins, tous ces trucs-là, bah, moi, je pense que c'est par là qu'on aurait pu incarner le côté français, justement, du film, et jouer avec ça. Et ça aurait donné peut-être un peu plus de poids, effectivement, à une menace qui me semble tellement
je trouve qu'il y arrive,
énorme.
Il y arrive un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui est observé. Excuse-moi, Perrine, je rajoute juste parce que
c'est
ce point spécifique, mais il y a une volonté quand même de ça, mais je trouve qu'il faut le saluer quand même. C'est-à-dire qu'il y a un gag, notamment, que je ne vais pas spoiler parce que ce serait dommage, mais c'est un gag sur le téléphone. Il y a d'autres petites références en fait sur les équipements des sous-marins qui reflètent une réalité. C'est-à-dire que les sous-marins, c'est en général les sous-marins français, dans la flotte française, c'est des vieilles machines qui ont été un peu rénovées, restaurées à la va comme je te pousse, pas très très bien. Et puis. Disons que dans l'imaginaire populaire, je pense que l'administration française, l'armée en fait quand même partie, quoi, hein, finalement, même si c'est un pan très particulier, à certains écueils sur lesquels le film joue. De façon très sporadique, mais il joue là-dessus. Et ça, ça fait partie pour moi des bons points du film. C'est-à-dire que je trouve que ça fait partie des petites touches où tu te dis, bon, bah, c'est un des avantages du film, c'est qu'il n'essaye pas de singer les Américains là-dessus. Oui. Excuse-moi, Perrine.
Non, mais par contre.
Il est touchant. Je
rebondis clairement sur ce que tu viens de dire, Julien, parce que pour moi, le film a des défauts, vous venez d'en faire part, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je vais revenir. Mais par contre, un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il a un côté très pédagogue. Il y a quelque chose d'assez pédagogue sur la façon dont ça fonctionne au sein d'un tout le système, tout l'arsenal un peu nucléaire, tout l'arsenal de toute je sais pas comment dire, le système militaire en France avec ses codes, j'ai plus les mots, c'est terrible, hein, c'est moche la vieillesse, tous ces procédés obligatoires à respecter, etc.
Son protocole,
merci. Ah, le micro s'envole. Non, mais le protocole, etc. Enfin, là, sa raideur aussi, la raideur du système, quoi. Et je trouve que ça, c'est une partie qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le film, notamment dans sa deuxième partie, où d'un seul coup, je trouve que le film a une ambition qu'il n'arrive pas toujours à atteindre, mais l'idée d'expliquer que on veut être une puissance, etc. On a un but à atteindre, mais ce but à atteindre finit par nous dévorer aussi. On a un rôle à jouer international, mais ce rôle-là, au bout d'un moment, peut mener à notre perte. Il y a une vraie référence sur comment, enfin, une vraie réflexion sur. Nos outils pour nous garder en vie vont-ils nous détruire ? Donc il y a quelque chose un petit peu que j'aime bien là-dessus, qui est évoqué, qui est intéressant. Mais le film est très, 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 très écrit. Et c'est et pas si étonnant de la part de Antonin Baudry, parce qu'en fait, c'est à la base, c'est ce qu'il est, un écrivain et quelqu'un qui sait de quoi il parle aussi. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de recherches. Et on le sent.
Et qui a travaillé dans l'administration.
Donc il sait très, très bien de quoi il parle et on le sent. Et ça, pour ça, je veux dire que je mets pas en question ce qu'il raconte dans le film. Et ça, moi, ça m'intéresse. En revanche, justement, cette surécriture fait qu'on a des dialogues, mais vraiment chelous. Cité notamment par Stéphane il y a deux secondes, mais à un moment donné, je sais plus, ils se croisent dans un bureau et ils font « Ah, mais que me vaut l'honneur de votre présence ?» Je suis genre « Pardon ?» Enfin, il y a vraiment
des... Nous, on dit ça tous les jours.
Mais bien sûr. Non, mais il y a des niveaux de dialogue où on se dit « Ça va pas, la recherche de punchline absolue ne fonctionne pas. Ouais. » Ils auraient gagné en simplicité, c'était pas si mal. Tous les passages sur Terre sont un vrai down à plein de moments. Ça ralentit. Alors que je trouve qu'ils ont toute une séquence d'ouverture, 20 minutes d'ouverture. Moi, j'étais en apnée. J'étais vraiment prise par l'action. J'étais vraiment prise par l'angoisse, ce qui n'arrive jamais, en fait, au bout de ces 20 minutes, ça redescend et ça n'arrivera jamais à regagner cette tension qu'ils ont eue dans les 20 premières minutes du film. Et c'est un peu le dommage, c'est-à-dire que tout le long, on y croit que ça va revenir. Et c'est vrai que c'est un film sur lequel Pathé a pas mal misé quand même, parce qu'à la base, il devait le sortir fin 2018. Finalement, ils ont gardé un petit peu de temps pour le sortir en mars, pour le travailler davantage, pour en faire une plus grande exposition, pour donner plus de visibilité au film. parce qu'il est ambitieux, parce qu'il y a du budget. Et en effet, moi, j'apprécie cette ambition française et j'espère qu'il ne va pas se planter juste parce qu'encore une fois, pour soutenir ce que disait Julien, ça serait dommage qu'un échec de ce film-là vienne planter d'autres projets ambitieux français. Donc moi, j'aime bien ça. Après, moi, sur le casting, je suis pas si dure. Moi, par exemple, je trouve au contraire que François Civil est un très bon choix de casting et il a vraiment une bonne tête et je trouve qu'il incarne vraiment quelque chose. Là où j'ai un peu plus de mal peut-être sur Omar Sy qui mine de rien presque surjoue le sérieux un petit peu trop au détriment presque du film. Reda Kateb, je le trouve très juste comme d'habitude. Moi, il me gêne pas Kassovitz, mais peut-être parce que je suis pas une grande lectrice de ses tweets où j'ai pas vu la série Le Bureau des Légendes. Donc moi, il me gêne pas plus que ça. Mais je trouve qu'il y a un souci de recherche permanente de vouloir en faire un petit peu trop. Et en fait, en même temps, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont pas tous les moyens qu'ils devraient avoir. Et en même temps, ça peut pas être Kursk, parce que Kursk, ça ne se passe quasiment que dans ce sous-marin, donc forcément, on est enfermé avec eux. Là, il y a beaucoup trop de moments sur Terre, et en effet, le personnage de Paul Haber, c'est un souci, parce que ce n'est qu'un artifice de scénario. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'existence du tout dans le film, mais comme la plupart des personnages, et c'est dommage, à part peut-être, encore une fois, François Civil, qui a peut-être un peu plus de relief que les autres, mais parce que, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui intéresse Antonin Baudry. Ce qui intéresse Antonin Baudry, c'est de nous parler de cet arsenal, c'est de nous parler du système. C'est nous parler des protocoles, c'est nous parler de l'armée et de sa raideur. Et ça, et le contexte. Moi, j'aime beaucoup cette idée de contexte. À un moment donné, il le ramène dans une forme de réalité qui fonctionne pour moi. Et après, mais c'est très scolaire sur plein de choses. C'est un peu scolaire. Et c'est peut-être ce que je reprocherais au film qui, pour moi, a quand même pas mal d'ambition et de capacité.
Mais c'est un peu le souci, moi, je trouve, le truc de la façon dont l'aspect protocolaire du film est présenté, justement, dans le truc. C'est que quand tu regardes, justement, un truc comme USS, un film comme USS Alabama, c'était toute la force du récit, on va dire, indépendamment de ce que je pouvais croire ou pas, quoi. En fait, t'as deux oppositions qui disent moi, je lis ce telex de cette manière-là, vous lisez de ce telex de cette manière-là. Comment on s'oppose, en fait, pour savoir. Qui a raison en fait dans tout le protocole qu'on est en train de mettre en place, et est-ce qu'on lance le missile, est-ce qu'on lance la guerre ou pas. Là, le problème, c'est que t'as pas deux forces qui s'opposent vraiment. Yeah. T'as juste des mecs qui disent mais est-ce qu'il va nous écouter, et l'autre qui se dit bah en fait oui il va écouter, mais en fait c'est son second qui écoute pas, donc du coup tu te retrouves en fait avec un tas de persos qui sont.
Ah si, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a une force humaine et une force qui est de l'ordre de la loi et du protocole. En fait, il y a une force qui n'est pas attaquable parce qu'elle est.
Je te parle d'incarnation de personnage.
Oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, dans l'idée, là, c'est même pas. Là, il y a quand même deux forces qui s'opposent. C'est la force du papier, la force de l'administratif et la force de l'humain. C'est ces deux forces-là qui s'opposent dans le film.
Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, si tu veux, les mecs décident de partir et d'aller rejoindre les bateaux en question. Et du coup, en fait, tu te rends compte que c'est même pas Reda Kateb qui va pas écouter finalement, puisqu'en fait, ils se connaissent bien et voilà, et que c'est son second qui fout la merde. Et
peut-être qu'il peut pas écouter.
Non, mais. Bon. Et le truc, c'est que. Voilà, et tu te retrouves dans cette espèce de logique-là. Après, le dernier truc que moi je dirais par rapport à ça, c'est que. Il y a un personnage principal, en fait, qui aurait pu être un beau personnage de cinéma. C'est-à-dire, parce que le son, ça fait partie du cinéma, c'est pas que visuel, quoi. Et en fait, il n'y a jamais, en fait, de mise en scène vraiment autour de ça non plus, quoi. C'est des gros plans sur le personnage qui regarde un sonar et qui a un casque sur son oreille, et voilà, ça s'arrête là. Il n'y a jamais un truc où tu vas jouer avec ce que le type entend et ce que les autres n'ont pas entendu, et ce qu'il ressent. En termes de mise en scène, non, je trouve pas. En fait, je trouve que c'est sur le papier peut-être, mais
il y a
mais
plein
parce
de moments
que c'est...
où on entend juste ce que lui il entend et on peut pas interpréter parce que personnellement je connais pas les bruits de l'eau, mais il y a quand même pas mal de moments où on est juste dans sa tête sans musique à écouter. Le chant de la mer, quoi.
Ouais, avec un gros plan et un truc de sonar. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, je pense que si tu regardes un McTiernan, si tu regardes un truc comme ça, évidemment, je ne vais pas dire que le mec il est à ce niveau-là, quoi, mais il aurait pu au moins s'en inspirer un peu. En fait, voilà, juste jouer un peu avec cette logique-là. Mais c'est effectivement quelqu'un qui vient du papier, donc. Enfin, voilà.
Mais c'est dommage, juste pour rajouter un tout petit truc là, sur ce truc de son, là, pour le coup, je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est vrai qu'il n'y a pas de relief en fait, dans la mise en image du son. C'est très, il passe un test, par exemple, le personnage à un moment. Et finalement, la mise en scène de ce test-là, bah, c'est un peu ou prou ce qu'on va retrouver ultérieurement et ce qu'on a déjà retrouvé avant, quoi. Mais ce qui, pour moi, encore une fois, participe du côté un peu empoté, en fait, de cette mise en scène. Alors, Perrine a peut-être raison, hein. C'est vrai que c'est peut-être trop écrit, c'est peut-être trop coincé. Mais encore une fois, pour moi, il y a un problème d'ampleur, en fait, là-dedans. Mais je voulais juste dire que c'est d'autant plus dommage qu'il y a un beau travail sur le son et que c'est là où je trouve que le mec, il a vraiment essayé de faire les choses bien, quoi. Il est allé chercher les gens de Skywalker Sound. Je veux dire, en France, un type qui se dit, bon, bah voilà, le son, il est important, je vais aller là-bas, je vais aller en Californie chercher les mecs et tout. Bon, il y en a pas beaucoup. On peut s'interroger sur l'utilité ou pas, parce qu'on a des designers sonores en France brillantissimes, donc c'est peut-être pas non plus nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour aller chez Lucas. Mais il n'empêche qu'il a quand même fait cet effort-là. Moi, ça fait partie des choses quand même qui me font plaisir dans le champ du loup.
Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. Comme toujours, vous êtes parfaitement libre, même Stéphane Moïsakis, qui ne travaille pas sous la contrainte, je tiens à le préciser. Il choisit lui-même de parler toujours du même film, par amour. Périne.
Je vais dans un univers totalement différent, rien à voir, mais c'est plus dans cette idée d'un film qui ne se relève pas de sa première partie. Finalement, c'est vraiment rien à voir. C'est Star is Born, mais quand je dis rien à voir,
effectivement,
c'est rien à voir, de Bradley Cooper. Parce que Star is Born a une montée pendant une demi-heure qui est exemplaire en réalité, et ça se termine avec un énorme éclat. Et à partir de cette fin de demi-heure, le film ne se relèvera jamais de ça, c'est-à-dire que le film après, il est sympa, hein, c'est pas inintéressant, mais ça coule tout seul et on s'en fout. Là où la première partie avait un vrai build-up, une vraie montée, enfin, c'est vraiment très très fort, et la deuxième, après on s'en fout. Et je trouve que clairement, le Chant du Loup souffre pour moi à peu près du même syndrome. C'est on a 20 minutes avec un vrai build-up, une vraie montée, une vraie réflexion sur l'angoisse.
Un build-up,
ouais, ça se construit, et voilà, ça se construit, et finalement, pour un éclat, bon, qui tombe un tout petit peu à l'eau, je suis d'accord pour l'explosion qu'on a, qui est un petit peu dommage, mais voilà, il y a
en tout cas
il y a une vraie construction, et je trouve que cette tension qu'il instaure dans la première partie ne reviendra dans le film, et c'est un peu ce que je lui reproche, comme ce que je reprocherais à Star is Born, qui encore une fois n'a rien à voir, puisque Lady Gaga n'est pas dans un sous-marin.
C'est vrai, alors que ça pourrait être un crossover intéressant,
mais je veux bien voir ça,
plus de chansons dans les sous-marins. Julien.
J'ai deux rocos. La première, c'est que figurez-vous que j'ai fait mon service militaire à Marine et que j'ai écrit des critiques de films dans Col Bleu, qui est le magazine de la Marine, voilà. Et j'ai réussi à insérer quelques critiques. Alors j'avais mon pacha là qui me convoquait, qui me disait mais c'est un peu pacifiste là, le géant de fer. Je dis non,
pas du tout.
C'est pas du tout. Alors du coup c'est passé, voilà. Donc, et j'ai aussi chroniqué des albums d'Hubert Feig-Stieffen, tout ça. Enfin c'était rigolo. Non, bah, blague à part. En film de sous-marin, je voulais juste reparler d'un film que j'adore, qui est un film de sous-marin mais fantastique pour le coup, et qui était passé inaperçu à l'époque. Même si nous, à l'époque, où, avec Steph, on écrivait dans Mad Movies, on avait essayé d'en faire quelque chose, quoi, d'en parler beaucoup. Mais c'est un film qui est oublié, en fait, totalement aujourd'hui, qui est un film, moi, je trouve magistral, qui est Below, de David Towie.
Abîme, en français.
Abîme, c'était ça, ouais. Je cherchais le titre français, mais je pense qu'il n'y a pas de Blu-ray français.
Il y a un Blu-ray requin, je crois que en double avec Deep Rising.
Voilà, c'est ça. Donc, très bon film aussi, Deep Rising, mais c'est sur autre chose. Non, mais c'est formidable, c'est un des meilleurs films de David Towie, c'est un mec qui a quand même du talent, même si ses derniers films étaient moins convaincants. Personnellement, je trouve que c'est son meilleur film. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène qui sont magistrales, avec, par exemple, et ça c'est très très rare, un plan qui directement te met dans une ambiance extrêmement forte, extrêmement lourde, extrêmement pesante. Je vais oser la comparaison, mais moi, ça, c'est le genre d'entrée en matière qui me fait un peu penser à du Carpenter et même à The Thing. Je ne dis pas que la suite du film, c'est du niveau de The Thing, mais en tout cas, ce plan-là, pour moi, c'est un truc ultra, ultra puissant. Un twist qui est peut-être moins intéressant, mais c'est sur l'ambiance même, en fait, à l'intérieur du film. Et c'est, voilà. Donc, c'est un film de maison hantée dans un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Below, Abîme en français, c'est à voir.
Stéphane.
Alors, quand on a fait l'émission sur Kursk, en fait, on avait cité à peu près tous les films de sous-marin, sauf un putain de film de sous-marin, et ce que ça nous a fait remarquer dans les commentaires, en fait. Das Boot de Wolfgang Petersen, quoi, le film qu'il a fait connaître, qu'il a fait arriver à Hollywood, et qui est un film assez impressionnant, en fait, pour le coup européen aussi, et qui, bon, alors, c'était peut-être pas les mêmes moyens, c'était peut-être pas les mêmes trucs, donc.
Photo de Joss Vacano, quoi, qui avait fait des trucs incroyables avec la caméra.
Qui ensuite a fait la photo de Robocop, tout ça, quoi, bref. Donc c'est quand même un film assez intense, je pourrais recommander ce film, quoi, c'est-à-dire que je pourrais recommander ça, parce qu'il y a pour ses mouvements de caméra dans les coursives, pour la façon. La façon, directeur qui dure une heure de plus, la façon dont la Steadicam est employée en fait pour comment dire, faire rentrer le spectateur littéralement dans ces décors là et passer à travers en fait des coursives hyper c'est pas du stade, bon, c'est pas grave, mais
nous parlons tous sur le contrôle.
Mais c'est ça le problème, c'est que j'aurais pu recommander ce film, mais en fait je vais recommander Anaconda. Voilà,
ok. Ah, je m'attendais.
Et là j'ai rien à rajouter.
Ça aussi, c'était un build-up signé Stéphane.
C'était du build-up, on s'en remettra jamais
de ce truc. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Solène, à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.